VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 26 mai 2015. En direct de Washington, Henri Francis et Anne Albertson.
La Maison-Blanche demande une enquête rapide et impartiale sur l'assassinat de Zedi Feruzi au Burundi.
Plusieurs évêques catholiques de l'Est du Congo accusent Kinshasa de laisser pourrir la situation dans leur région.
Mali, un casque bleu tué et un autre grièvement blessé à Bamako.
Un caporal de l'armée tunisienne a tué lundi 7 de ses camarades et blessé grièvement 10 autres avant d'être abattu dans une caserne de Tunis.
Le vice-président américain Joe Biden appelle le premier ministre irakien après les critiques du chef du Pentagone contre l'armée irakienne.
Inspection hier d'un avion d'Air France parti de Paris et escorté par deux F-15 américains jusqu'à New York suite à des menaces anonymes. Il ne manquait pas bien sûr notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Nouvelle journée de contestation au Burundi hier, alors que le week-end avait été endeuillé par l'assassinat d'un membre de l'opposition. La Maison-Blanche a condamné hier cet assassinat. Claire Morin-Gibault.
La présidence américaine a pressé le gouvernement burundais d'ouvrir une enquête rapide et impartiale sur le meurtre de Zedi Feruzi. Washington a également rappelé l'importance de la liberté d'expression, particulièrement en cette période électorale, réitérant son appel à la reprise immédiate de la diffusion des programmes des radios indépendantes. Un climat de peur et d'instabilité s'est peu à peu installé à Bujumbura, la capitale, où une lente mais inexorable escalade de la violence semble en marche. Une personne est morte et 21 autres ont été blessées suite à de nouvelles manifestations lundi, où les contestataires dénonçaient le meurtre samedi soir de l'opposant Zedi Feruzi. Leader d'un petit parti d'opposition, Feruzi a été abattu par des inconnus avec son garde du corps. Le mouvement anti-troisième mandat a dénoncé un assassinat politique et mis en cause le camp présidentiel qui a lui rejeté toute responsabilité.
La situation sécuritaire dans divers pays d'Afrique centrale a été évoquée hier à N'Djamena à la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Écoutons à ce propos le président tchadien Idriss Déby Itno, président sortant de l'organisation.
Le climat d'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, en République centrafricaine et dans la région des Grands Lacs, par exemple, nous interpelle. Le Burundi, qui a eu une expérience exaltée dans le domaine du maintien de la paix en Afrique, ne mérite pas la situation de déstabilisation dans laquelle il est en train de plonger. Tout en condamnant le coup d'État manqué dans ces pays frères et l'assassinat de l'opposant Zedi Feruzi, nous demandons au président de la République Nkurunziza, à toute la classe politique, à la société civile, de maintenir le cap de dialogue en vue de rassembler toutes les filles et tous les fils de Burundi. Au moment où la CAC se relance enfin en se dotant d'instruments d'expression de la solidarité, plusieurs vaillants soldats des armées des États de l'Afrique centrale continuent de verser leur sang pour la paix, que ce soit dans le cadre de la CAC, de l'Union africaine ou des Nations unies.
Le président tchadien Idriss Déby Itno, dans un extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Un casque bleu de la mission de l'ONU au Mali a été tué et un autre grièvement blessé par des tirs d'assaillants non identifiés dans la nuit de lundi à mardi à Bamako, la capitale. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité. Des hommes armés que nous n'avons pas encore identifiés ont tiré dans la nuit de lundi sur deux casques bleus qui étaient à bord d'un véhicule de l'ONU. L'un des deux a été tué, l'autre grièvement blessé, a déclaré à l'AFP une source de sécurité malienne.
Ce forfait doit être qualifié d'acte terroriste. Les auteurs sont les ennemis de la paix, a ajouté la même source, sans autre précision. L'attaque et le bilan ont été confirmés par une source de sécurité de la MINUSMA, précisant que tous deux appartenaient au contingent bangladais. Les deux casques bleus venaient de l'aéroport de Bamako, en direction du sud de la ville, quand ils ont essuyé les tirs d'assaillants à bord d'un véhicule, selon cette source. Régulièrement frappé par des attaques dans le nord du Mali depuis son déploiement en juillet 2013, la force de l'ONU a essuyé la semaine dernière la première attaque la visant directement à Bamako.
Quatre personnes ont été blessées lundi lors de heurts entre des soldats congolais et des rebelles hutu-rwandais démobilisés dans l'est de la République démocratique du Congo, a appris l'AFP auprès de l'ONU et d'un responsable local. Les forces armées de la RDC, la FRDC, n'ont pas souhaité répondre et les circonstances de l'incident restaient confuses.
Il y a eu des tirs au camp de transit FDLR à Kanyabayonga lors d'une réunion avec des responsables chargés de la démobilisation, a déclaré à l'AFP Bokele Joy, administrateur du territoire de Lubero, entité administrative du Nord Kivu où se trouve ce camp. Des officiers ont tiré en l'air et on dénombre 4 blessés, 3 FDLR et un officier, a-t-il ajouté, joint par téléphone de Goma, la capitale du Nord Kivu.
Le sénateur nigérian Buruji Kachamo, accusé par les États-Unis de complicité dans un trafic de stupéfiants, ne s'est pas présenté hier au tribunal de Lagos au Nigeria qui devait statuer sur son extradition. L'annonce émane de l'agence antidrogue nigériane telle que le rapporte l'AFP. Des précisions avec Jacques Aristide.
Buruji Kachamo, élu il y a 2 mois au Sénat nigérian, a été inculpé en 1998 par un tribunal de l'État américain d'Illinois pour complicité de trafic d'héroïne. Après des années sans réagir aux demandes américaines, l'agence antidrogue du Nigeria a créé la surprise samedi dernier en l'assignant à résidence dans l'attente de l'audience d'extradition. L'agence dit travailler dur pour s'assurer que le sénateur Kachamo se soumette aux procédures judiciaires et d'ajouter que sa maison est bouclée par des policiers anti-drogue en vue de sa comparution au tribunal. Aucune nouvelle date d'audience n'a été fixée. L'élu qui représente l'État d'Ogun a toujours nié toute implication, rejetant constamment la faute sur son frère, à qui il ressemblerait beaucoup.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le vice-président américain Joe Biden a téléphoné lundi au premier ministre irakien Haider al-Abadi pour remercier l'armée irakienne et saluer le courage et l'énorme sacrifice de ses soldats face au groupe État islamique. Selon la Maison-Blanche, M. Biden a aussi réaffirmé le soutien des États-Unis au combat du gouvernement irakien contre les djihadistes, y compris l'accélération de l'entraînement de l'armée irakienne et de son équipement.
Cet appel de M. Biden visait apparemment à calmer la colère des Irakiens après que le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a accusé dimanche les forces irakiennes d'avoir permis au groupe État islamique de prendre Ramadi parce qu'elles n'ont pas montré de volonté de se battre.
L'inspection d'un avion d'Air France parti de Paris, escorté jusqu'à New York suite à des menaces anonymes, n'a révélé aucune bombe ou matériel dangereux. Les agences de presse rapportent que 2 autres avions de ligne ont également fait l'objet de menaces hier. Chérubin Dorsil.
En effet, un 2e appareil, cette fois d'une compagnie saoudienne, a été inspecté à l'aéroport Kennedy de New York et un 3e venant d'Angleterre a failli ne pas achever son vol à cause de ces menaces que les autorités ont toutefois jugées non crédibles. En provenance de la ville anglaise de Birmingham, précise l'Associated Press, le vol d'American Airlines a été gardé à distance de l'aérogare, mais une fois la menace écartée, les autorités ont permis son stationnement normal. Selon la télévision américaine, que cite l'AFP, il s'agissait de menaces d'attaque à l'arme chimique. Les passagers et membres d'équipage n'ont rien rapporté d'inhabituel. Et l'inspection a été effectuée uniquement par mesure de précaution, a déclaré le FBI, la Sûreté fédérale. Aucune mesure particulière de sécurité n'a été annoncée pour l'aviation civile américaine suite à ces incidents.
10 avions au maximum ont fait l'objet de menaces qui proviendraient pour la plupart de la même source, mais aucune d'entre elles ne s'est avérée crédible, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Selon la chaîne de télévision américaine NBC, que cite le FBI, un homme a appelé lundi plusieurs postes de police aux États-Unis en affirmant que des armes chimiques se trouvaient à bord de plusieurs avions.
Enfin, le bureau du médecin légiste de l'État du Nevada a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour homicide près de 2 semaines après la mort du légendaire guitariste et chanteur de blues B.B. King, qui est décédé le 14 mai à l'âge de 89 ans. 2 des filles de B.B. King, Karen Williams et Patty King, affirment que leur père a été empoisonné par son manager, Laverne Tony, et son assistant personnel, rapporte le site eonline.com. Laverne Tony, l'exécuteur testamentaire de B.B. King et l'un des avocats chargés de la succession de l'artiste, ont trouvé ridicule de telles accusations. À l'écoute de VOA Afrique, c'est l'heure maintenant de la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement à Abidjan. En réponse aux allégations du peu d'engouement de la banque quant au financement du secteur privé en Afrique, le président sortant Donald Kaberuka a déclaré hier que 2 milliards de dollars sont allés au financement de ce secteur en 10 ans de mandat. Quand j'arrivais en 2005, nous étions à 200 millions de dollars de financement du secteur privé. En 2015, nous sommes à 2 milliards de dollars, a-t-il affirmé, tandis que d'autres sources avancent un taux de 5%, rapporte le site d'information Connexion Ivoirienne, estimant que ce serait relativement peu pour une institution qui finance le développement du continent. Saluant les progrès économiques du continent lors de la Journée mondiale de l'Afrique lundi, le secrétaire général de l'ONU a félicité l'engagement de l'Union africaine pour son programme d'autonomisation des femmes dans le cadre de l'agenda 2063. Alors que nous travaillons à briser les obstacles sociaux, économiques, environnementaux et culturels auxquels les femmes et les filles sont confrontées, nous reconnaissons également qu'il y a des avancées, a déclaré M. Ban, notant les progrès exemplaires en matière de représentation féminine dans les parlements et soulignant que le continent a un des taux les plus élevés de l'entrepreneuriat féminin. Le gouvernement burkinabé a pris des engagements lundi pour faire face aux fréquents délestages, rapporte l'agence APA. Les Burkinabés sont souvent sans électricité la nuit, voire même toute la matinée. Les facteurs à l'origine de ces coupures sont les difficultés d'approvisionnement en carburant de la Société nationale d'électricité, un manque d'eau dans les barrages et une panne de liaison. Le ministère des Mines et de l'Énergie dit avoir pris des engagements avec la Société nationale des hydrocarbures, l'Organisation des transporteurs routiers et la douane.
Sans transition, les sports dans cette émission. Sport, c'est avec Bagassi-Coura. Pour commencer, la grande nouvelle sur la planète foot, Carlo Ancelotti démis de ses fonctions d'entraîneur du Real.
Oui, c'est ce qu'a annoncé ce lundi le président du Real Madrid, Florentino Pérez, au Santiago Bernabéu lors d'une conférence de presse. Carlo Ancelotti est victime d'une seconde saison décevante après avoir conduit le club au sacre en Ligue des Champions dès sa première année. Le nom de son successeur pourrait être connu dès la semaine prochaine.
Quant à Hervé Renard, il est le nouvel entraîneur de Lille.
Oui, le club de Ligue 1 française a officialisé hier sa nomination. Il signera un contrat de 3 ans ce mardi. Il faut dire que le Français Hervé Renard a quitté ce week-end son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire qu'il a mené au titre continental en février dernier. La FIF, la Fédération ivoirienne de football, a accepté vendredi dernier à la demande d'Hervé Renard de mettre fin de façon anticipée à son contrat. Hervé Renard, âgé de 46 ans, avait signé en août 2014 un contrat de 2 ans renouvelable avec la FIF 6 mois avant de remporter avec les éléphants la CAN 2015 disputée en Guinée équatoriale. Hervé Renard s'était révélé en 2012 déjà en remportant une première fois la compétition africaine avec les Chipolopolo de la Zambie à la surprise générale. Et pour terminer, 4e match des finales de la NBA Conférence Ouest.
Dans les playoffs, donc, les Rockets de Houston ont évité l'élimination en battant hier soir les favoris de Golden State Warriors par un score de 128 à 115. James Harden, la vedette de Houston, a marqué 45 points. Son vis-à-vis Stephen Curry a lui eu 23 points. Il a été blessé pendant le match, mais a pu revenir pour le finir. Les Warriors mènent la série 3 victoires à 1.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Henri Francisque. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, alors que vient d'être prolongée la garde à vue de l'acteur de la société civile Moussa Tchangari dans les locaux de la brigade antiterroriste de Niamey pour association de malfaiteurs en lien avec l'entreprise terroriste Boko Haram, une autre figure de la société civile est elle aussi en garde à vue depuis hier soir, cette fois-ci à la police judiciaire. Nous, Mamadou Arzika est accusé d'atteinte à la défense nationale, en rapport toujours avec la guerre que mène le pays contre Boko Haram. On écoute le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Il y avait ce lundi matin, au siège du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, une ambiance peu ordinaire. Les différents membres réunis sont sollicités de toutes parts pour donner des nouvelles du président du mouvement qui a passé la nuit dans les locaux de la police judiciaire de Niamey. C'était la troisième convocation de Nuhu Mamadou Arzika en l'espace de 48 heures et c'est à cette troisième convocation qu'on lui notifia qu'il sera placé en garde à vue pour atteinte à la défense nationale.
Nayoussa Jimraou, membre de l'association de Nuhu Mamadou Arzika.
Ce chef d'inculpation nulle part au monde. Même dans les livres de grammaire ou de lecture expliquée, je n'ai jamais rencontré une expression pareille. Alors, comme c'est des spécialistes de complot, ils peuvent comploter la sorte. Coller un chef d'inculpation pareil à nous, ça ne le sait pas. Nous, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour l'unité nationale, la défense de la nation, surtout en matière de soutien aux forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc aujourd'hui, que les gens fassent cette trouvaille, moi, je trouve qu'ils ont trouvé mal l'expression. L'expression que c'est, nous devrions être poursuivis pour atteinte aux intérêts égoïstes et particuliers des uns et des autres, voire les chefs d'inculpation sur lesquels nous devrions siéger là-bas.
Le péché de Nuhu Mamadou Arzika aura donc été de se laisser joindre au téléphone par des éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes sur le terrain de guerre contre Boko Haram à Diffa pour les entendre décrire leurs conditions difficiles, mais surtout de faire le rapprochement entre ces difficiles conditions et une certaine extravagance de la hiérarchie politique de ces forces de défense et de sécurité ici à Niamey notamment.
Nous avons dit ceci, au moment où les pays en guerre, qu'on trouve un ministre de la Défense qui se rabougrit pour être un ouvrier, un manœuvre en train de distribuer des brouettes, des balais, des charrues, des coupe-coupe et même des haches dans le quartier, soi-disant qu'on va faire Niamey-Niala, alors que les militaires qui sont sur le front les appellent constamment pour leur faire part de leur situation de détresse parce que les gens ont faim. C'est leur propre expression qu'elle appelle les prisonniers. Alors c'est cela, on est en train de chercher à demander nous, ces militaires-là finalement, ils sont qui? Pourquoi ils vous appellent? Nous attendons que nous soyons déférés devant le parquet et nous verrons la suite de ce que ça va donner. Nous sommes en état d'éveil permanent et il n'existera pas. Il n'est pas arrivé encore quelqu'un dans ce pays qui puisse croire qu'il va nous empêcher de nous exprimer.
Le président du MPCR va donc devoir attendre demain ou encore 48 heures de plus pour être présenté devant le parquet qui décidera ou pas de le poursuivre. Entre-temps, l'alerte de la mobilisation autour de cette nouvelle épreuve est lancée par ses camarades.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Burkina Faso, l'Institut Burkinabé Free Afrique va proposer un projet de loi au gouvernement sur le modèle de la loi française du 1% culturel qui institue la création d'œuvres artistiques locales associées à l'architecture publique. Ce mardi, le coordonnateur de cette agence de réflexion, le docteur Rassabla Sédou Ouedraogo, présentera ce projet lors d'une conférence à l'Institut français à Ouagadougou. Le mobilier des entreprises publiques est acheté en Asie, tandis que des artistes burkinabés vendent leurs œuvres dans le monde entier sans jamais avoir de commandes dans leur propre pays, a dit à Nathalie Borges, un membre de Free Afrique, David Fanon.
Quand nous allons dans nos bâtiments administratifs, souvent on constate que le mobilier de bureau, les tableaux qui décorent les murs, les rideaux et tout ça sont achetés en Asie, ce qui ne permet pas à nos artistes et les artisans ici qui sont dans l'artisanat d'art de vivre de leur art. Pourtant, l'État aurait pu, en exigeant qu'on achète leurs œuvres, leur permettre de vivre décemment de leur art et également mettre en valeur ce qu'ils font. On espère bien que les artistes se mettront en coopérative ou en regroupement, en tout cas pour pouvoir répondre Il nous faut, si on a la loi, un jour passer à la phase de sensibilisation pour que les artistes commencent à tenir compte de cela dans leur méthode de travail, qu'ils s'organisent mieux, parce qu'il va falloir répondre à la commande publique, respecter certaines normes, les comptes bancaires, les références et tout ça. On aimerait bien leur permettre d'avoir le temps de mettre à niveau.
Pour produire cela, il leur faut tout de même un soutien financier. Est-ce que justement dans votre projet de loi, vous prévoyez ça, une certaine aide de la part du gouvernement ?
Oui, il se trouve qu'il y a une loi déjà sur le statut de l'artiste qui a été votée. On attend l'application de cette loi-là. Cela va permettre aux artistes, effectivement, d'avoir accès aux institutions financières, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le moment. Voilà. Les banques ne comprennent pas trop ce qu'ils font. Et eux également, craignant d'aller vers les institutions financières qui demandent des garanties qu'ils n'ont pas. On est en train de travailler pour le moment avec le ministère de la Culture pour voir comment ce statut de l'artiste entre en application.
Quel type d'art en particulier pensez-vous qu'il faut mettre en avant, sachant qu'ils sont tous concernés, bien entendu, mais est-ce que vous voyez un point en particulier ?
On a des jeunes aujourd'hui dans le design qui font de la récupération, qui travaillent sur le bois et le métal. Ils arrivent pour certains à vendre à l'extérieur. Il y en a qui voyagent beaucoup dans le monde, ils exposent dans les grandes villes en Europe. Et ils peuvent répondre quand on parle des mobiliers. Également des peintres burkinabés qui arrivent à exposer partout dans le monde, mais qu'on ne voit pas ici, qu'on ne connaît même pas ici. Il y a beaucoup d'artisans au Burkina. Il y a ces femmes qui tissent le coton, qui peuvent fournir des rideaux pour les bureaux. Énormément de femmes qui sont dans le tissage de pain traditionnel. Et ces pains sont très beaux et peuvent vraiment servir à des rideaux et même de toile pour les fauteuils de bureau. Et comme nous, notre credo, c'est le développement endogène. Si cette tendance continue, ça peut changer un peu les choses parce que les gens auront tendance à produire selon la demande qui leur vient d'ailleurs. Et ça va dénaturer les choses. Donc, il faudrait qu'il y ait de la consommation locale ici. Et nous pensons que c'est l'État qui peut donner l'impulsion pour que cela soit une réalité.
David Fanon de l'Institut Free Afrique était joint à Bobo Diolasso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Peut-être une solution à la pénurie de produits pétroliers au Nigeria. En effet, un accord a été trouvé hier lors d'une rencontre entre la Commission des ressources pétrolières du Sénat, les représentants du gouvernement fédéral et ceux des grossistes. Ces derniers avaient arrêté la distribution du carburant, accusant le gouvernement de ne leur avoir pas versé l'équivalent d'un milliard de dollars qu'il leur doit. Une décision qui avait pratiquement paralysé l'économie nigériane ces dernières semaines. Pour une réaction, Timothée Donangmaya joint à Zaria, dans le nord du Nigeria, le professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université Amadou Bello.
Je ne pense pas que ce soit un problème de l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai que c'est nos représentants, mais je pense que c'est l'exécutif qui doit résoudre ce problème. En plus, l'exécutif n'arrive pas à résoudre ce problème, c'est pourquoi le Sénat est intervenu. Et puis, bon, ils disent qu'ils ont eu un accord avec les fournisseurs, mais là, sur le terrain, on voit rien de concret.
Alors, quels sont les griefs des fournisseurs?
L'État subventionne le carburant au Nigeria. Ça coûte à l'État des milliards de naira que les fournisseurs prennent comme subvention. Et puis, ils n'ont pas payé ces subventions-là pendant plusieurs mois. Et puis les fournisseurs, ils ont arrêté de fournir le carburant sur le marché. Il y a de cela un mois, l'État a versé de l'argent à ses fournisseurs, mais il semble que ce n'était pas le montant complet. Donc c'est une sorte de grève de la part des fournisseurs ou quoi, on ne comprend pas. Mais bon, voilà, c'est ça la situation.
Alors vous vivez à Zaria, à des milliers de kilomètres des raffineries de pétrole. Comment vivez-vous la pénurie là-bas?
Très, très difficile, très difficile. Là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant. On achète au marché noir à plus du double du prix du carburant. Plus le temps va, plus ça devient plus cher. Parce que chaque jour, le prix des produits de consommation a augmenté. Parce que là, le transport a augmenté, le prix du transfert a augmenté, donc tout a augmenté.
Qu'est-ce que tout cela représente comme défi pour le président élu, Muhammadu Buhari, qui prend fonction cette semaine?
Vraiment, ça sera très difficile pour lui, parce que là, les gens parlent déjà du sabotage. C'est comme si c'était un sabotage de la part du gouvernement sortant. Le transfert de pouvoir, ce sera le vendredi 29. Bon, et puis avec tout ce qui se passe là, bon, les gens parlent d'un sabotage, quoi.
Le professeur Oudo Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université Amadou Bello, à Zaria, dans le nord du Nigeria.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Coup d'œil sur la campagne d'un jeune conseiller municipal français de 35 ans contre le gaspillage alimentaire. Élu il y a tout juste un an à Courbevoie, Arash Derambarche a décidé de lancer une initiative pour aider non seulement les SDF, mais aussi de nombreuses familles de la classe moyenne qui ont du mal à joindre les deux bouts. Un constat a retenu son attention, l'énorme gâchis dans les supermarchés. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec Arash Derambarche.
Chaque supermarché jette 20 à 40 kilos de nourriture par soir minimum. Ils mettent de l'eau de Javel sur la nourriture consommable. Donc moi, j'ai demandé en fait que les supermarchés puissent, au lieu de jeter leur nourriture consommable à la poubelle, donner ça à une association de leur choix pour que chaque association puisse distribuer la nourriture. Donc je suis allé demander à Monoprix, à Franprix, ils m'ont refusé. Je suis allé demander ensuite à Carrefour. Et moi, le problème, Timothée, c'est que je n'avais pas, vous savez, la logistique et la chaîne du froid. Je n'avais pas le local pour stocker la nourriture. Donc j'ai contourné la loi parce que je suis allé à 20h30, une demi-heure avant la fermeture, récupérer la nourriture et j'ai fait une distribution immédiate le soir même. Je n'ai pas stocké la nourriture, mais j'ai pris la nourriture avec les bénévoles et j'ai donné la nourriture tout de suite le soir même.
Quel accueil a été réservé à votre initiative ?
Très bonne, puisque c'était de la distribution immédiate. Ce n'était pas la peine d'attendre le lendemain, d'aller au Resto du Cœur par exemple, parce que dans certaines associations, il faut donner ses fiches de paye. Et parfois, on est trop riche pour être pauvre. Ça veut dire que quand même, si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous gagnez trop pour obtenir de la nourriture dans certaines associations. Moi, avec l'initiative que j'ai faite, c'était pour tous ceux qui avaient envie de manger, sans discrimination. Et comme il n'y a pas de cadre légal sur la distribution immédiate le soir même, j'ai fait une pétition le 19 janvier avec Mathieu Kassovitz sur change.org et on a recueilli plus de 210 000 signatures. C'est la plus grande pétition de l'histoire écologique, environnementale et agriculture pour une pétition en ligne. Et j'ai voulu en faire une loi qui a été votée. Et en même temps, donc on a eu deux commissions parlementaires en janvier et en février. Et ensuite, j'ai été reçu à l'Élysée le 5 mai. Le président de la République, François Hollande, m'a apporté son soutien. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en parallèle, je voulais décliner ça à l'international. Donc j'ai demandé à One France. One, c'est l'ONG fondée par Bono, le chanteur de U2. Parce que je sais que Bono se bat beaucoup contre l'endettement en Afrique, contre la misère et la pauvreté, la famine en Afrique. Donc j'ai voulu en fait en faire un projet international pour que tout le monde puisse manger à sa faim.
Arash Derambarche, conseiller municipal de Courbevoie en France.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Yeah. I am not just a live baba di nunga release and yangi gidi ra. Baba muji ta we ra baba ya ni nataga Nazareth.
Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Alan Bertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Henri Francisque à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la voie de l'Amérique.
Soyez
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.